11 septembre 2001, mes soirées vont bientôt être prises pour l'organisation des 20 ans de Radio Éphémère. On souhaitait faire une grosse boum en ville, une fiesta à tout péter. Mais dans l'immédiat, je bosse dans une grosse boîte de services multimédia. En ce début de mardi après-midi, le réseau internet est lent, très lent, terriblement lent. On saura assez vite pourquoi. À New York, un avion s'est écrasé sur le World Trade Center. À l'époque, mon bureau était dans une régie d'une petite chaîne de télé par satellite. Un de mes collègues trouve sur le récepteur satellite un feed, un signal vidéo envoyé par une agence de presse pour les informations télévisées. Des images prises d'hélicoptère, sans aucun habillage ni son. Des images tellement irréelles qu'elles sont hypnotiques, effroyablement belles. Nous aurons les images au niveau du sol que plus tard, pour en réaliser leur horreur. Sur place, le réseau mobile au standard américain CDMA s'est effondré très vite, car incapable de gérer la charge. Les trois quarts des télévisions et radios sont muettes, car les émetteurs locaux étaient sur l'une des tours jumelles. 10 jours plus tard, 21 septembre 2001, 10h17. Je suis en réunion à l'étage en dessous, quand un bang fait claquer une très lourde porte blindée. Stupéfaction. Tout le monde s'accroupit par réflexe. De secondes après, le faux plafond s'effondre pendant que toutes les vitres explosent et que de lourdes armoires basculent. Le deuxième choc est tout aussi violent et tout le monde se rue vers les issues de secours. Nous étions dans le quartier du Mirail, à moins de 2 km de AZF. Et heureusement, je n'étais pas à mon bureau. Un lourd morceau de verre blindé était planté à ma place. Mais dans l'immédiat, tous les salariés de la boîte se retrouvent sur le parking. On voit un immense nuage en champignons d'un marron sinistre. Des hurlements de femmes retentissent devant le portail fermé de l'école primaire voisine. 20 ans après, il me glace encore le sang. Très vite, le réseau mobile va saturer comme une partie du réseau fixe. Je le vois en temps réel car mon Nokia a un mode debug et je vois que les cellules opérateurs réservent de la ressource pour chaque appel au 112. Les autres appels sont quasi impossibles, seuls les SMS passent. Dans l'après-midi, seuls de très rares abonnés à Internet par ADSL auront un moyen de communication. Sur l'invitation du patron, on tente de rentrer chez nous. Mais le métro est stoppé et toutes les rues ne sont plus qu'embouteillages. Celles sortant de la rocade ont 5 cm de suie brune. J'en ressens une nervosité silencieuse car je ne me souviens même plus des coups de klaxon forcenés. Je retourne sur ma boîte en attendant que tout se dégage car le vent était plus favorable là où j'étais alors que le panache allait vers le centre-ville. Ayant bossé à ZF et à la poudrière, je sais qu'ils y manipulent des gaz très toxiques donc inutile de s'y exposer à plein poumon. Alors que le ciel était très nuageux à 10h, il est complètement dégagé 2 heures après. Avec la petite dizaine de collègues restés sur place, on ironise sur les consignes de l'annuaire papier en cas d'accident industriel, car à l'époque on disait à la population de s'y référer en cas de catastrophe. Seulement les consignes semblent déconnectées de la réalité et inappropriées par la violence de l'événement. Les sirènes de l'alerte civile n'ont pas sonné ni dans l'instant, ni dans la minute, ni dans l'heure, mais plus tard, beaucoup plus tard. Comment fermer les fenêtres et se calfeutrer quand toutes les vitres sont en miettes? La consigne aussi de se mettre sur Radio France Toulouse, station locale qui a été supprimée depuis 4 ans pour créer un réseau national, le MOUV. Les équipes de le MOUV, justement, à l'époque basées à Toulouse, produisent des émissions, sauf pour la partie information qui devait être validée à Paris. Ils sont donc hiérarchiquement dans l'incapacité d'informer. Et France 3 qui a pu faire un décrochage, mais la télé locale TLT n'a même pas pu faire un flash dans la matinée. Ce 21 septembre 2001, je me suis rendu compte combien les procédures d'alerte à la population sont fragiles. Car, comme toute procédure de sauvegarde, elles ne fonctionnent correctement que si elles ont été testées et maintenues.